La suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un commandant palestinien a été tué ce matin par une frappe israélienne dans la bande de Gaza. En représailles, des roquettes ont été lancées par dizaines vers Israël, une première depuis des années. Ce matin, c'est tout le pays, jusqu'à Tel Aviv, qui est en alerte. Nous irons sur place.
Direction ensuite Hong Kong, sur un campus d'université. Les étudiants chinois doivent se taire ou fuir pour échapper aux militants pro-démocratie. Les affrontements sont de plus en plus violents.
Le piège des prêts dits toxiques devant la justice française aujourd'hui. Plus de 1600 personnes se sont portées partie civile contre une filiale de BNP Paribas. Avant le début du procès, nous vous raconterons cette affaire.
Et puis nous ferons le point sur la candidature de Thierry Breton à la Commission européenne. Y aura-t-il conflit d'intérêts? Le Parlement se penche sur son cas aujourd'hui.
Après ce journal, Frédéric Seitz nous rejoindra. Il se demandera pourquoi les responsables politiques se voient souvent reprocher d'être déconnectés. Son billet politique dans un quart d'heure. L'armée israélienne dit s'attendre à plusieurs jours de combat. Elle a mené ce matin une attaque dans la bande de Gaza, donnant lieu, comme habituellement, à une riposte palestinienne, une pluie de roquettes. Nous verrons les détails de ces attaques dans un instant, mais déjà les sirènes d'alerte ont retenti inhabituellement en Israël ce matin, Frédéric Mettezo.
Les sirènes ont retenti jusqu'à Tel Aviv, à 70 km au nord de la bande de Gaza. C'est beaucoup plus loin que d'habitude sur la bande côtière. Alerte aussi à Rishon LeZion, plus à l'intérieur des terres. Et bien sûr à Ashdod, Ashkelon et Sderot, tout près de l'enclave. Là, les gens sont aux abris, les écoles sont fermées, on voit des voitures arrêtées sur les autoroutes. Le dispositif antimissile Iron Dome a intercepté des dizaines de missiles. Cela fait des années qu'il n'y avait pas eu d'alerte à Tel Aviv, la grande métropole économique du pays, là où se trouve l'aéroport international. C'est un nombre également très élevé de projectiles qui ont été tirés depuis Gaza. Le djihad islamique riposte à l'élimination de Baha Abu al-Atta ce matin dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne le présente comme le chef militaire du djihad islamique, soutenu et armé par l'Iran. Selon Tsahal, il avait organisé des dizaines d'opérations contre Israël et une autre attaque était imminente. L'armée s'attend à plusieurs jours de tension. Pour l'instant, on ne signale pas de victimes en Israël.
C'était Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture en Israël. J'ajoute par ailleurs que ce matin également, à Damas, en Syrie, cette fois un bâtiment a été attaqué. Le fils d'un activiste palestinien y a été tué. La télévision publique syrienne s'en fait l'écho, sans plus de détails sur la nature de cette attaque. Un représentant du groupe palestinien djihad islamique l'impute à Israël. Le président bolivien démissionnaire Evo Morales est en route pour le Mexique où il va y trouver l'asile politique. L'ancien dirigeant l'annonçait cette nuit, 24 heures après avoir démissionné face à la contestation populaire. Il est soupçonné, je vous le rappelle, de fraude électorale lors de la présidentielle du mois dernier. Et par ailleurs, des centaines de ses partisans se dirigeaient cette nuit encore vers La Paz. La police a demandé à l'armée d'intervenir pour contenir les violences dans un pays qui n'a plus de gouvernance. Des violences aussi à Hong Kong. Les États-Unis ont d'ailleurs fait part cette nuit de leurs graves préoccupations, appelant à la retenue de la part des deux camps, forces de l'ordre et contestataires. Hier, deux manifestants ont été blessés par balles. Un autre homme a été brûlé à vif. Les transports, les universités sont bloquées face à cette violence inédite dans ce conflit qui dure depuis 5 mois déjà. Notre correspondant Simon Leplâtre s'est ainsi rendu sur un campus à Hong Kong, campus sur lequel des étudiants chinois sont régulièrement pris à partie et bousculés.
Ces jours-ci, le campus de l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong offre un curieux spectacle. Entre ces étudiants, en robe sombre qui célèbrent encore leur diplôme, ce monument couvert de fleurs en mémoire d'Alex Chow, l'étudiant de l'université, premier martyr du mouvement, et ses appels à la vengeance tagués sur les murs. Dans ce contexte tendu, les étudiants chinois n'en mènent pas large.
Une université, c'est censé être un espace de liberté, loin de la politique, pour se concentrer sur les études. Mais en ce moment, on ne se sent pas en sécurité.
Vendredi, nombre d'étudiants ont quitté le campus pour rentrer chez eux en Chine, le temps que les choses se calment. Originaire du Guangdong, Lin parle cantonais, la langue des Hongkongais, mais beaucoup de ses amis, qui ne parlent que mandarin, ont peur.
La plupart des membres de mon groupe d'étudiants sont partis parce qu'ils ne parlent pas cantonais. Et c'est vraiment dangereux pour eux si quelqu'un découvre qu'ils sont originaires de Chine continentale.
Les différences politiques sont profondes. Alors que les étudiants hongkongais sont très impliqués dans le mouvement, beaucoup de Chinois sont patriotes, d'où des disputes qui ont parfois dégénéré. Ce jeune hongkongais met en garde.
S'ils ont peur, ils devraient nous parler davantage, parce qu'on n'attaque pas les gens tout le temps. On attaque les gens si on a une raison.
Il précise qu'il a des amis chinois parmi les plus ouverts d'esprit.
C'était Simon Leplâtre à Hong Kong pour France Culture. Violence encore en Irak où la contestation contre le pouvoir en place se poursuit à Bagdad et dans le sud du pays. Au total, selon les chiffres officiels, près de 320 personnes sont mortes depuis le début des manifestations début octobre. 4 manifestants sont encore tombés hier sous les balles des forces de l'ordre, alors qu'au même moment, l'ONU publiait une feuille de route pour venir à bout de cette crise, Lucille Wasserman.
Un climat de colère et de peur s'est installé dans le pays. C'est par ces mots que Janine Ennis Pleskaert, la chef de la mission d'assistance de l'ONU en Irak, a introduit sa feuille de route destinée au gouvernement irakien. Elle demande aux autorités de prendre des mesures immédiates comme la libération de tous les manifestants pacifiques détenus à ce jour ou encore l'ouverture de plusieurs enquêtes pour faire la lumière sur les assassinats de manifestants. Sur le moyen terme, elle réclame enfin des réformes électorales et des changements constitutionnels. Une 20aine de demandes au total soutenues par la plus haute autorité religieuse du pays, Ali Sistani, avec qui cette représentante de l'ONU s'est entretenue ce lundi. Celui qui exerce une influence considérable sur l'opinion publique irakienne à majorité chiite a toutefois exprimé ses réserves et ses doutes sur la capacité du gouvernement à conduire des réformes sérieuses, a-t-il dit. Depuis le début de la contestation, Ali Sistani a régulièrement condamné les violences et pointé du doigt les autorités dans la gestion des manifestations, mais n'a jamais retiré jusqu'ici sa confiance à Abdul Abdelmahdi, le premier ministre irakien. Reste que pour les manifestants, ces mesures et ces réformes ne sont pas suffisantes. Ils disent vouloir manifester jusqu'à la chute du régime et jusqu'au départ de tous les hommes politiques actuellement au pouvoir.
Je précise qu'hier, le ministre de la Justice irakien a dit regretter les centaines de morts. Il était à la tribune de l'ONU à Genève où plusieurs pays ont demandé que justice soit rendue. La Cour suprême des États-Unis doit se pencher aujourd'hui sur le sort des Dreamers. Ces jeunes gens arrivés illégalement sur le sol américain alors qu'ils étaient encore enfants. Ils sont 1 800 000 dans le pays. Barack Obama leur avait offert une régularisation partielle, mais l'administration Trump veut suspendre ce programme. Les 9 juges de la Cour suprême doivent donc trancher aujourd'hui. 5 d'entre eux sont conservateurs, 4 sont progressistes. Les États-Unis, où l'ancien président américain Jimmy Carter est hospitalisé depuis cette nuit, il doit subir une intervention médicale à la tête après de récentes chutes. Jimmy Carter a 95 ans.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, la BNP Paribas est poursuivie pour pratique commerciale trompeuse.
Et jugée à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit en fait plus exactement de sa filiale BNP Personnel Finance. C'est le premier procès de cette ampleur pour la première banque de France. 1643 personnes se sont portées partie civile dans cette affaire ainsi que 2 associations de consommateurs. Elles s'estiment victimes d'un crédit immobilier indexé sur le franc suisse, c'est-à-dire soumis aux variations des taux de change sans en avoir eu connaissance. Les précisions donnent leur choix.
Les emprunteurs floués attendaient depuis longtemps que l'affaire soit portée au pénal. Depuis 10 ans, elles remboursent en effet un crédit immobilier qu'elles ont bien peur d'avoir à rembourser pour le restant de leur vie. Appelé Helvet Immo, il est indexé sur le franc suisse et a été vendu pendant 2 ans par la filiale BNP Personal Finance de la BNP, plus connue sous le nom de CTLM. Les conseillers proposaient ce produit à des particuliers désireux d'investir dans l'immobilier pour bénéficier de défiscalisation type loi Cellier ou bien et en leur promettant une sécurité garantie basée sur la stabilité du franc suisse. Stabilité qui s'est démentie après la crise de 2008. Le cours du franc suisse n'a fait que grimper par rapport à l'euro. La somme à rembourser a donc augmenté elle aussi, amenant à des situations parfois catastrophiques de personnes saisies sur salaire pour rembourser un capital restant dû plus important que la somme empruntée au départ, et ce, après 10 ans de remboursement. Or, ce risque, estiment les parties civiles, a été parfaitement caché par la banque. Brice Gay, membre du collectif des victimes d'Helvet Immo, estime que la tenue de ce procès est une première victoire.
Ce sera l'occasion de montrer que ces informations que les victimes ont reçues étaient fausses et de nature à les induire en erreur. Et dans un deuxième temps, montrer également que la banque a vendu délibérément ses prêts en ayant conscience que leur client emprunteur allait s'endetter tôt ou tard.
La BNP, de son côté, nie qu'il y ait eu volonté de tromper, mais aujourd'hui, ce type de prêt indexée sur une devise étrangère, est interdit par la loi. Enfin, l'amende encourue par la banque n'est pas très importante, mais si les victimes obtiennent indemnisation, les sommes en jeu pourraient être bien plus conséquentes.
Et ce procès doit durer jusqu'au 29 novembre. L'enquête réalisée par Anne-Laure Chouin sur Helvet Immo est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Près de 40 rassemblements sont prévus ce mardi devant des restaurants universitaires en France, à Paris, Amiens ou Caen. Des mobilisations contre la précarité étudiante. Une précarité dramatiquement mise en lumière vendredi dernier par un jeune étudiant. Il s'est aspergé d'essence devant un Crous, un restaurant universitaire à Lyon, et a allumé le feu. Il est aujourd'hui grièvement blessé. Cet étudiant a laissé un mot. Il dit avoir voulu dénoncer ses conditions de vie après s'être refusé une bourse pour sa troisième année de L2. Thierry Breton représentera-t-il la France à la Commission européenne? Après l'échec de Sylvie Goulard, il a été désigné par le gouvernement français pour s'occuper du marché intérieur. Il sera auditionné par le Parlement européen jeudi, mais dès aujourd'hui, la Commission des affaires juridiques s'y réunit pour évaluer ses déclarations d'intérêts financiers. Et même si le grand patron français se démène pour minimiser les soupçons de conflit d'intérêts, sa candidature nourrit quelques inquiétudes, Rosalie Lafarge.
Il dit avoir cédé toutes ses actions, avoir quitté tous les mandats qu'il exerçait dans les conseils d'administration, mais Thierry Breton reste un grand patron. Qualité évidente pour ce poste, estiment certains. Conflits d'intérêts en perspective, redoutent les autres.
Maintenant, les conflits d'intérêts ne sont pas seulement financiers, c'est en termes d'influence.
L'eurodéputé écologiste Karim Adeli.
Il va falloir faire attention que sur certains dossiers, il n'y ait pas d'influence parce que M. Thierry Breton a été à la tête d'une entreprise qui s'appelle Atos. Et donc, il va falloir réellement qu'il ne soit pas le juge de dossier auquel il serait partie prenante.
Thierry Breton a dirigé le groupe de services informatiques Atos pendant 11 ans et dans son portefeuille potentiel à la Commission européenne, on trouve l'intelligence artificielle, les supercalculateurs ou la cybersécurité, autant de sujets en lien direct avec Atos. Et puis dans les couloirs du Parlement européen, on s'interroge aussi sur ses liens avec d'autres patrons du CAC 40 ou encore sur sa capacité à gérer les nombreux lobbies qui l'attendent. Sylvie Guillaume est députée européenne socialiste.
L'intérêt, c'est un peu de savoir quelle pratique va être celle de M. Breton, s'il est commissaire. Quelle va être son attitude personnelle et de ses services vis-à-vis de la gestion des groupes d'intérêt, qui seront évidemment extrêmement nombreux. Donc c'est tout ça que j'ai envie de lui poser comme question.
Parce qu'après l'examen de sa déclaration d'intérêt, viendra le temps de son audition par le Parlement européen. Jeudi, exercice risqué pour Thierry Breton qui part tout de même avec un argument en sa faveur. Pas facile politiquement pour les eurodéputés de rejeter un nouveau candidat d'Emmanuel Macron sans risquer de plonger les institutions européennes dans la crise.
Au chapitre politique encore, notons que deux représentants de la droite seront reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ils demandent l'interdiction des listes communautaires pour les municipale du printemps à venir. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le chef des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, visent notamment l'Union des démocrates musulmans de France. Fondée en 2012, elle compte aujourd'hui 800 adhérents. Après le séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter en Ardèche, l'heure est ce matin à l'inspection des centrales nucléaires de la région. Si le site de Tricastin n'a pas été atteint, au nord de Montélimar, en revanche, la centrale nucléaire de Cruas, elle, est à l'arrêt. Je précise également que le séisme a fait hier midi 4 blessés, dont un grave. Ce matin, sur la commune de Teille, à 6 km de l'épicentre, les établissements scolaires sont fermés sur la commune du Teille. Près de 200 maisons ont été touchées au total. Un tremblement de terre assez atypique, Sophie Bécherel.
Première surprise, de mémoire d'homme, on n'a pas souvenir d'un séisme dans la zone et ces 50 dernières années, les enregistrements n'en ont pas non plus montré. Pourtant, les chercheurs le savent grâce aux récits plus anciens. Au 18 et 19e siècle, la terre a tremblé dans cet endroit. Plus surprenant, l'absence de réplique. Après la forte secousse de 11h52, Michel Campillo est professeur de sismologie à l'université Grenoble-Alpes.
La seule chose qui, à l'heure où nous parlons, donc quelques heures après le séisme, est un petit peu atypique, c'est la quasi-absence de réplique. Après le tremblement de terre, dans les minutes qui ont suivi, la faille est devenue complètement silencieuse, ce qui est statistiquement très étonnant.
Est-ce que cela signifie que la Terre est définitivement stabilisée ce matin? Les sismologues ne peuvent l'affirmer. Pour l'instant, ils savent que la secousse vient d'un chevauchement de plaques qui s'est produit à 12 km de profondeur. D'autres informations vont arriver, ajoute Michel Campillo.
Ce qu'on peut espérer, c'est que les capteurs du réseau sismique français, qui s'appelle RESIF, et puis des données accélérométriques, nous apporteront des informations sur le choc principal. En plus, on avait quelques stations très proches pour certaines qui étaient liées à une opération scientifique et donc c'est des données qui vont être mises à disposition pour étudier ce séisme.
Le temps de récupérer ces données, car les capteurs temporaires prévus pour étudier l'arc alpin ne transmettent pas en temps réel les informations. Les chercheurs vont donc devoir se déplacer.
Le temps ce mardi sera encore nuageux avec des averses sur une grande partie du pays. En revanche, le soleil va dominer des plaines du Roussillon jusqu'à la vallée du Rhône et la région PACA. Ce matin, comptez 7 degrés à Dunkerque et à Besançon, 9 à Paris et Lyon, 10 degrés à Nantes, 12 à Bayonne, 16 degrés à Nice.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.